Chapitre 10. La traque commence. Pour le début d'un voyage, Ingtar imposait un rythme rapide qui finit par inquiéter Rand. Les chevaux pouvaient avancer au trot pendant des heures, certes, mais là, il s'agissait d'une journée entière et qui serait suivie par on ne savait combien d'autres. À voir la détermination d'Ingtar, et quand on l'avait entendu prêter serment devant la chaire d'Amerline, il paraissait décidé à rattraper et arrêter les voleurs en moins de 24 heures. De louables intentions, mais un rien irréaliste. Rand s'abstint de faire part de ses doutes aux guerriers du Chiénard. Ingtar commandait l'expédition, et même s'il s'était toujours montré amical avec Rand, il n'aurait sûrement pas apprécié qu'un berger prétende lui donner des conseils. Urin chevauchait juste derrière Ingtar et son porte-bannière. C'était pourtant lui qui dirigeait la colonne, répétant régulièrement qu'il fallait continuer vers le sud. Alors que des collines boisées, essentiellement des pins, des chênes et des faux bleuets, moutonnaient à l'infini devant les cavaliers, Urin avançait en ligne droite, ne s'autorisant presque pas de détour, sauf pour contourner certains tertres dont l'ascension aurait à l'évidence été une perte de temps. Rand avait essayé de chevaucher avec ses deux amis. Mais chaque fois qu'il se laissait décrocher de la tête du groupe afin de les rejoindre, Matt flanquait un coup de coude à Perrine, qui lançait sa monture au galop, peut-être un peu à contre-cœur, pour remonter vers la tête de la colonne de conserve avec son ami. N'ayant aucune envie de traîner seul à l'arrière, Rand imitait la manœuvre. Bien entendu, toujours sur une initiative de Matt, les deux autres garçons de Chandemonde se laissaient de nouveau glisser à l'arrière-garde.
« Que la lumière les brûle ! Je voudrais simplement m'excuser !»
Rand se sentait seul. Et comme de juste, savoir que c'était sa faute ne le consolait pas. Au sommet d'une colline, Uno mit pied à terre pour examiner les empreintes de sabots. Puis il retourna du bout d'une botte un petit tas de crottins de cheval et soupira.
« Ils vont rudement vite, seigneur !»
Même quand il parlait normalement, Uno avait une voix de stentor qui s'entendait de loin.
« Nous ne leur avons même pas repris une fichue heure. Et je me demande même s'ils ne nous en ont pas mis une dans la vue. S'ils continuent comme ça, ils auront la peau de leurs fichus chevaux. »
Il désigna une trace de sabots.
« Pas un cheval, ça, mais un fichu trolloc, avec des fichus pattes de bouc. Nous les rattraperons, »
assura Ingtar.
« Les chevaux, seigneur, nos fichus chevaux. Il est inutile de les faire suer sang et eau comme ça. Même si nos ennemis finissent par crever leurs montures, ces fichus trolloques sont plus résistants que les meilleurs étalons.
« Nous les rattraperons, »
répéta Ingtar.
« En selle, Uno. »
Uno regarda Rand du coin de son œil unique, puis il haussa les épaules et enfourcha son cheval. Ingtar dévala la colline au galop, glissant à moitié et forçant ses hommes à prendre des risques insensés. Puis il fonça vers la butte suivante.
« Pourquoi m'a-t-il regardé comme ça ?»
se demanda Rand. Uno faisait partie des hommes qui lui battaient froid, mais sans lui manifester une hostilité ouverte, contrairement à Massema. Cela dit, Uno n'était amical avec personne, à part quelques rares vétérans blanchis sous le harnais comme lui.
« Il ne peut quand même pas croire à ces histoires qui me présentent comme un seigneur. »
Comme d'habitude, Uno passa le plus clair de son temps à sonder les environs. Mais chaque fois que son regard croisa celui de Rand, il le soutint sans broncher ni desserrer les dents. Ce comportement n'avait rien d'étonnant en soi, car le gaillard aurait soutenu le regard d'Ingtar de la même façon. C'était sa façon d'être, bien sûr, mais... Le chemin suivi par les suppôts des ténèbres qui avaient volé le corps ne passait jamais à proximité d'un village. En humant l'air, Urin ne cessait de marmonner au sujet de quelque chose de plus malsain encore, mais il n'avait toujours pas de précision à apporter. Depuis les hauteurs, Rand aperçut plusieurs villages, mais toujours bien trop lointains pour qu'on puisse apercevoir des gens dans leurs rues. Avantage non négligeable, les gens en question étaient également bien trop loin pour apercevoir des cavaliers en route pour le sud. Il y avait aussi des fermes isolées, comme partout. Des bâtisses solides, au vent très bas, presque toujours adossées à des étables et à des granges. De ces perchoirs successifs, Rand en aperçut plusieurs, et il distingua même le filet de fumée qui sortait de leur cheminée. Mais là encore, aucun paysan n'aurait pu repérer la colonne de cavaliers. Rattrapé par la réalité, Ingtar lui-même finit par s'apercevoir que les chevaux ne tiendraient pas longtemps au rythme qu'il imposait. Non sans égrener à voix basse un chapelet de jurons, et après s'être tapé plusieurs fois du poing sur la cuisse, le guerrier ordonna que tout le monde mette pied à terre. Tenant leur monture par la bride, les membres de l'expédition marchèrent pendant près d'une demi-lieue, puis ils remontèrent en selle,
avalèrent une distance à peu près égale et recommencèrent l'opération. Et ainsi de suite. Rand fut assez surpris de voir Loyal sourire comme un enfant dès qu'il devait se mettre à marcher. À l'origine, Logie n'était pas un grand amateur d'équitation. Un euphémisme en réalité, il abominait ça. Mais son ami humain pensait qu'il avait surmonté depuis beau temps cette répugnance.
« Tu aimes courir, Rand ?»
lança Loyal, hilar.
« Moi, oui. Au sanctuaire de Shangtai, j'étais le plus rapide. Un jour, j'ai même battu un cheval. »
Rand se contenta d'acquiescer. Pendant une marche, il n'aimait pas gaspiller son souffle en bavardant comme une pie. Il chercha Matt et Perrine du regard et ne les trouva pas, car ils devaient traîner à l'arrière, protégés des regards indiscrets par tout un détachement d'hommes en armure. À ce propos, comment les guerriers du Chiennard faisaient-ils pour supporter une telle marche forcée? Jusque-là, pas un seul ne s'était plaint ni n'avait ralenti le pas. Uno n'avait même pas une goutte de sueur sur le front, et le porte-bannière ne faiblissait jamais, attentif à ne pas laisser osciller de droite à gauche l'étendard au hibou gris. Même si la colonne ne traîna jamais vraiment, le crépuscule tomba sans que les guerriers aient aperçu l'ombre de leurs ennemis. Lorsque la visibilité fut presque nulle, Ingtar ordonna enfin un arrêt pour la nuit. Avec une discipline impressionnante, les soldats entreprirent de dresser le camp, d'allumer des feux et de préparer le fief des chevaux, pour l'essentiel une série de piquets reliés par une corde qui servirait à attacher les montures. Ingtar désigna les 6 hommes qui prendraient le premier tour de garde, répartis en 3 patrouilles. Avant toute autre chose, Rand alla récupérer son baluchon dans le grand panier en osier que portait un des chevaux de bât. L'opération étant très simple, car il y avait très peu d'effets personnels dans les bagages, le jeune homme alla s'asseoir près d'un feu et entreprit d'ouvrir le baluchon. Quand ce fut fait, il cria si fort que tous les guerriers dégainèrent leurs lames, prêts à repousser une horde de trollocs.
« Que se passe-t-il ? »
demanda Ingtar en accourant.
« Des intrus ? Je n'ai pas entendu crier les sentinelles. »«
Ces vestes ! »
gémit Rand, révulsé.
« Tu les as vues ?»
La première était noire, brodée de fils d'argent, et l'autre, d'un blanc immaculé, arborait des ornements en fil d'or. Des hérons s'affichaient fièrement sur le col, exactement comme sur la veste d'apparat que portait encore Rand.
« Le domestique m'a dit que je trouverais 2 vestes de bonne qualité et d'une parfaite sobriété. Et regardez-moi ça !»
Ingtar rengaina son épée dans le fourreau qu'il portait entre les omoplates.
« Eh bien, ces vestes me semblent de bonne qualité. »«
Tu me vois accoutré ainsi tout le temps ?»«
Une veste est une veste, Rand. J'ai cru comprendre que Moiraine Sedai s'était occupé de ta garde-robe et de ton paquetage. » Il se peut que les Aes Sedai ne sachent pas très bien ce qui convient à un soldat en campagne.
Ingtar eut un grand sourire.
Après la capture des Trollocs, nous organiserons peut-être une fête. Eh bien, contrairement à nous, tu seras vêtu pour l'occasion.
Ingtar retourna vers les feux de cuisson qui crépitaient déjà. Depuis que le guerrier avait mentionné Moiraine, Rand s'était transformé en statue.
Que manigance cette femme!
Quoi qu'elle fasse, je ne tomberai pas dans le panneau. Rand refit le baluchon et le rangea au fond du panier.
Au pire, je peux voyager nu comme un ver.
En campagne, les guerriers du Chiennard se partageaient toutes les corvées. Lorsque Rand approcha des feux, il constata que Massema avait écopé de la cuisine. Tandis qu'il remuait frénétiquement un grand chaudron, une odeur de ragoût monta aux narines de Rand. Un plat à base de navets, d'oignons et de viande séchée. Ingtar fut servi en premier et Uno passa en deuxième. Ensuite, les hommes formèrent une file, sans tenir compte d'une hiérarchie quelconque. Lorsque ce fut le tour de Rand, Massema lui propulsa littéralement une ouche de ragoût dans l'assiette. Reculant pour que sa veste ne soit pas souillée par les éclaboussures, le jeune homme s'écarta, cédant sa place au soldat qui le suivait, tout en suçant son pouce brûlé. Massema observa Rand avec un sourire mauvais qui en disait long sur sa jubilation. Uno approcha et flanqua sur la nuque du cuistot improvisé une claque qui lui fit ravaler son rictus.
« Tu crois qu'on a trop de fichues pitances pour en gaspiller comme ça ?»
Le borgne jeta un coup d'œil à Rand et s'éloigna. Tout en se massant l'oreille, Massema foudroya le jeune homme du regard. Rand alla rejoindre Ingtar et Loyal, qui avaient pris place sous un chêne luxuriant. Pour le repas, l'officier s'était autorisé à retirer son casque, mais il portait toujours son armure complète. Matt et Perrine étaient là aussi, dévorant leur ration à belles dents. Matt ricana en lorgnant la veste de Rand. Perrine ne leva pas ses yeux jaunes de son assiette. Ces derniers temps, Il regardait plus souvent le sol qu'autre chose. Au moins, ils n'ont pas fichu le camp ce coup-ci. Rand s'assit en tailleur à côté d'Ingtar, sur le flanc opposé à celui choisi par ses amis. « J'aimerais bien savoir pourquoi Uno ne cesse de me regarder. Sûrement cette veste de malheur. » Ingtar finit lentement de mâcher une bouchée de ragoût. Une manière de prendre le temps de la réflexion avant de répondre.
« Non. Il se demande si tu es digne d'une épée au héron. »
Ingtar ignora le ricanement de Matt.
« Ne t'en fais pas à cause de lui. S'il pouvait, il traiterait le seigneur Hagelmar en personne comme de la blesaille. Enfin, Hagelmar peut-être pas, mais c'est bien le seul qui trouverait grâce à ses yeux. Uno jure parfois comme un charretier, mais il donne de bons conseils. Quoi d'étonnant, puisqu'il crapahutait déjà avant ma naissance. Tiens compte de ses opinions, oublie son franc-parler, et tu te féliciteras de le fréquenter. Je croyais que c'était comme avec Massema. »
Rand enfourna une cuillerée de ragoût, trop chaud, mais il l'avala quand même. C'était le premier repas depuis le départ de Faldara, et il n'avait pas pris de petit déjeuner le matin, car l'angoisse lui nouait l'estomac. Comme toujours, le corps se vengeait et criait famine. S'il vantait les talents de cuisinier de Massema, leur relation avait-elle une chance de s'arranger ?
Il me déteste, dirait-on, et je ne comprends pas pourquoi.
Massema a servi 3 ans dans les marches de l'Est,
dit Ingtar.
À Angkor Dail, contre les Aiel.
Pensif, il remua son ragoût.
Moi, je ne pose pas de questions, hein. Si Lan Dai Shan et Moiraine Sedai affirment que tu es de Deux Rivières, dans le royaume d'Andorre, eh bien c'est la pure vérité. Mais Massema ne peut pas oublier les Aiel. Et quand il te voit... Bon, pour ce que j'en dis, moi.
Rand laissa tomber sa cuillère dans son assiette.
Tout le monde me prend pour ce que je ne suis pas. Je vis à Chandemond, Ingtar. Je m'occupe de moutons et je fais pousser du tabac, tout ça avec mon père. Voilà qui je suis, un paysan et un berger de Deux Rivières.
Je suis témoin,
intervint Matt.
Il dit la vérité. Nous avons grandi ensemble, même si Messire a pris la grosse tête. Avec cette histoire d'Aiel, ça ne va pas s'arranger. Mais c'est bien dommage. Tant qu'à faire, il ne serait pas un seigneur Aiel?
C'est sérieux, dit Loyal. Il a le physique. Rand, tu te souviens, c'est ce que j'ai pensé à une époque où je croyais ne pas assez bien connaître les humains pour être sûr de mon jugement. Jusqu'à ce que l'ombre s'efface, jusqu'à ce que l'eau ne coule plus, souriant dans les ténèbres, hurlant son défi avec son dernier souffle, et prêt à cracher dans l'œil du faiseur d'aveugles le jour du jugement dernier. Tu te rappelles ?
Rand baissa les yeux sur son assiette.
« Avec un choufa autour de la tête, on jurerait que tu es un Aiel, mon ami. »
Les mots exacts de Gawain, le frère d'Elaine, la fille héritière du royaume d'Andorre.
« Tout le monde me prend pour ce que je ne suis pas. » « C'est quoi, cette histoire de cracher dans l'œil du ténébreux ?»«
C'est l'engagement des Aiels à combattre jusqu'au bout. »
répondit Ingtar.
« Et je ne doute pas un instant qu'il soit sincère. À part les colporteurs et les trouvères, les Aiels divisent le monde en deux. » Eux-mêmes et leurs ennemis. Il y a 500 ans, ils ont fait une exception pour le Kairien. Eux seuls savent pourquoi. À mon avis, ça ne se reproduira jamais.
J'en ai bien peur, soupira Loyal. Mais ils laissent les Ingari traverser leur désert. Et ils ne sont pas hostiles aux Ogiers, même si nous ne sommes guère enclins à nous aventurer sur leur territoire. Mais des Aiels viennent parfois dans mon sanctuaire pour nous acheter du bois chanté. De sacrés durs, ces guerriers.
J'aimerais en avoir de cette envergure,
s'écria Ingtar.
Et même la moitié moins endurcie.
C'est une blague,
s'esclaffa Matt.
Avec tout le fer que vous trimballez sur vous, si je marchais un quart de lieue, il me faudrait dormir une semaine pour récupérer. Et aujourd'hui, vous avez fait la moitié du chemin à pied.
Les Aiels sont en acier,
insista Ingtar.
Les femmes comme les hommes. Je le sais parce que je les ai combattus. Ils peuvent courir 10 lieues d'affilée et livrer bataille sans prendre une minute de repos. Ce sont des tueurs redoutables. À main nue ou avec toutes les armes imaginables, sauf l'épée. Pour une raison inconnue, ils refusent d'en brandir une. Pareillement, ils ne monteraient pour rien au monde sur le dos d'un cheval. Mais, avec leur rapidité naturelle, on ne peut pas parler d'un handicap. Armé d'une épée face à un aïel aux mains nues, un soldat a sa chance s'il est très bon. Et tout le reste est à l'avenant.
Ces gens vivent dans un désert où n'importe lequel d'entre nous serait mort de soif en moins de 24 heures. Eux, ils parviennent à élever du bétail et à vivre relativement bien dans leur village creusé dans de grandes flèches rocheuses. Les aïeuls vivent dans leur désert depuis la dislocation du monde. Arthur, aile de faucon, a tenté de les en déloger, et ça lui a valu la seule défaite importante et sanglante de son règne. En plein jour, l'air scintille dans le désert des aïeuls, tant il y fait chaud. La nuit, il y règne un froid de gueux. Posez-lui la question, et un aïeul répondra qu'il n'existe pas au monde d'endroit où il préférerait vivre. Si bizarre que ça paraisse, ce ne serait pas un mensonge. S'il leur prenait l'envie d'attaquer, les repousser serait une tâche surhumaine. La guerre des aïeuls a duré 3 ans et, sur 13 clans, 4 seulement y étaient impliqués.
« Les yeux gris de Rand, »
dit Matt,
« sont un héritage de sa mère. Ça ne veut pas dire qu'il soit un aïeul. »
« Comme je l'ai déjà dit, » soupira Ingtar, « ça ne me regarde pas. »
Lorsque Rand s'étendit enfin pour prendre un peu de repos, des kyrielles d'idées indésirables tourbillonnaient dans son esprit. « Avec un choufa sur la tête. » Originaire de Deux-Rivières, puisque Moiraine le dit. Les aïeuls ont tout dévasté jusqu'à Tarvalon. Né sur les pentes du pic du dragon, le dragon réincarné.
Personne ne m'utilisera,
marmonna le jeune homme. Mais il eut beaucoup de mal à trouver le sommeil. Ingtar n'attendit pas l'aube pour se remettre en route. Leur petit déjeuner avalé sur le pouce, les cavaliers repartirent vers le sud alors que le ciel rougissait à peine à l'horizon oriental et que la rosée matinale laissait toujours les feuilles des arbres d'une constellation de gouttelettes. Instruit par l'expérience de la veille, Ingtar désigna des éclaireurs, et il imposa à la colonne un rythme certes soutenu, mais sans risque pour la santé des chevaux. À l'évidence, le bouillant guerrier avait compris que cette affaire ne se réglerait pas en un clin d'œil. Selon Urin, la piste conduisait toujours vers le sud. Comme pour en attester, un des éclaireurs revint au galop, environ 2 heures après le lever du soleil.
Un camp abandonné devant nous, seigneur Ingtar, au sommet de la colline suivante. Il devait y avoir 30 ou 40 personnes.
Ingtar éprona son cheval comme si on venait de lui dire que le ténébreux l'attendait sur ses hauteurs. Pour ne pas se faire renverser par les autres membres de la colonne, Rand dut adopter le même rythme effréné. Une fois sur place, il n'eut rien de spectaculaire à voir. Des cendres froides de feu de cuisson, cachées parmi les arbres, et les restes de ce qui semblait être une carcasse rôtie. À l'écart, des mouches bourdonnaient sur plusieurs tas d'immondices rougeâtres. Ingtar fit signe au cavalier d'attendre, puis il mit pied à terre et traversa le site avec Uno. Humant l'air, Urin fit le tour du camp sans descendre de sa monture. Rand resta avec le gros du groupe, sans regretter le moins du monde de ne pas visiter un endroit où avaient campé des suppôts des ténèbres, des trollocs et un mirbraal. Sans compter une entité plus malfaisante encore. Fidèle à sa réputation d'indiscipline, Matt descendit de cheval et s'aventura dans le camp désert.
« C'est ça, un campement de suppôts ? Bon, ça ne sent pas la rose, mais à part ça, on ne voit rien de spécial. »
Il flanqua un grand coup de pied dans un des tas de détritus, se pencha et ramassa l'os calciné qu'il venait d'en déloger.
« Ils mangent quoi, les suppôts ? On ne dirait pas un os de mouton, et encore moins de vache. »«
Il y a eu un meurtre ici. »
gémit Urin. Il se plaqua un mouchoir sur le nez.
« Non, c'est pire encore qu'un meurtre. »
« Les trollocs, »
dit Ingtar, les yeux rivés sur Matt.
Ils devaient crever de faim, et avec des suppôts à leur disposition.
Soudain verdâtre, Matt laissa tomber son os.
« Seigneur, »
dit Urin,
« ils ne se dirigent plus vers le sud. »
Tous les regards se braquèrent sur le renifleur.
« Le nord-est, ils ont peut-être fini par décider de filer vers la flétrissure, en nous contournant. En allant vers le sud, il voulait nous lancer sur une fausse piste, je suppose. »
L'air intrigué, Urin ne semblait pas croire à ses propres hypothèses.
« Quoi qu'il fasse, » dit Ingtar, « je les aurai. En selle !»
Environ 1 heure plus tard, Urin tira soudain sur les rênes de sa monture.
« Ils ont de nouveau changé de direction, seigneur. Le sud. Et ils ont tué quelqu'un d'autre ici. »
Dans cette cuvette, entre 2 collines, les guerriers ne découvrirent pas de cendres. En revanche, quelques minutes suffirent pour qu'il trouve le cadavre. Un homme recroquevillé sur lui-même dans des buissons. La nuque en bouillie, un œil éjecté de son orbite sous la violence du choc. Il s'agissait d'un compatriote d'Ingtar. Du moins si on en jugeait par ses vêtements,
mais aucun membre de l'expédition ne le connaissait.
« Pas question de perdre du temps à enterrer un suppôt !»
décréta Ingtar.
« En route pour le sud !»
Il sauta en selle avant même d'avoir terminé sa phrase. La journée ressembla comme une jumelle à la précédente. Uno étudia des empreintes et du crottin, puis il annonça que la colonne avait gagné un peu de terrain sur ses proies. Mais au crépuscule, toujours pas de suppôt ni de trolloc en vue. Le lendemain, dans un nouveau camp abandonné, les poursuivants découvrirent le troisième cadavre. Cette fois, révéla Ourine, les fugitifs avaient opté pour le nord-est. 2 heures plus tard, suivant cette piste, les cavaliers découvrirent un homme au crâne fendu par une hache. Là aussi, les suppôts et les trolloques avaient repris la direction du sud. Selon Uno, le groupe d'Ingtar continuait à gagner du terrain. Jusqu'à la nuit, la traque continua dans une campagne semée çà et là de fermes isolées. La routine se répéta le lendemain, le camp, les meurtres et les changements de direction, et le surlendemain. L'avance des fugitifs fondait régulièrement, mais pas assez vite pour satisfaire Ingtar. Un matin, il proposa de ne pas tenir compte du changement de direction de l'ennemi. Puisque leur proie finissait toujours par repartir vers le sud, pourquoi ne pas gagner du temps en s'épargnant un détour ? Avant que quiconque ait émis un commentaire, l'officier annonça haut et fort que c'était une mauvaise idée. Si les suppôts et les trolloques ne modifiaient pas leur trajectoire cette fois, le gain de temps supposé se transformerait en une erreur presque irréparable. Ingtar harangua ses troupes, les incitant à accélérer le rythme et à avancer 1 ou 2 heures de plus par journée, malgré les dangers inhérents à la nuit. Très solennel, il rappela que la chair d'Amerline en personne les avait chargés de retrouver le corps. S'ils ne se laissaient arrêter par rien, leur nom entrerait dans l'histoire, devenant un thème majeur des récits de trouvères et des chansons de bardes. Oui, les noms des héros qui auraient retrouvé le corps de Valère s'inscriraient à jamais dans l'histoire, gravés dans l'esprit de tous pour les siècles des siècles. Tandis que leur chef pérorait en chevauchant, à croire qu'il ne pouvait plus s'arrêter, ces hommes commencèrent à se poser des questions sur sa santé mentale. Le fidèle Uno lui-même finit par regarder l'officier avec de grands yeux ronds voilés d'inquiétude. Puis la colonne atteignit le fleuve Erinin. Même aux yeux de Rand, le mot « village » ne pouvait pas qualifier ce hameau composé d'une demi-douzaine de minuscules maisons aux toits pentus, pressées les unes contre les autres, comme si elles entendaient se réchauffer. Du sommet de la colline sur laquelle se dressaient les bâtiments, on voyait le fleuve briller sous la caresse des premiers rayons vraiment puissants du soleil. En principe, les cavaliers auraient déjà dû avoir trouvé les vestiges du camp ennemi. Mais la routine paraissait brisée, car ils n'avaient rien vu de semblable aujourd'hui. Si près de sa source, dans la colonne vertébrale du monde, l'Erinin n'avait guère de rapport avec le cours d'eau majestueux qu'on décrivait dans les récits. Moins de 60 pas de largeur, avec une simple barge halée par une corde pour la traverser. Pour l'heure, ce bac rudimentaire était sur la rive d'en face, à l'ombre d'une rangée d'arbres. Pour une fois, la piste des fugitifs passait par un lieu habité. Et ce lieu, comme par hasard, était désert.
« Une embuscade, seigneur !»
demanda Uno. Ingtar donna les ordres qui s'imposaient. Lance pointée, les guerriers se déployèrent pour encercler les maisons. Puis ils avancèrent dans les étroites ruelles, venant de 4 directions à la fois. Une manière éprouvée de balayer une zone sans rien laisser au hasard. Quand ce balai fut accompli, sans autre résultat que soulever un nuage de poussière, les cavaliers s'immobilisèrent. Rand rangea dans son carquois la flèche qu'il avait encochée sur son arc, puis il remit celui-ci à son épaule. Matt et Perrine l'imitèrent sous le regard de Loyal et de Ourine, qui n'avaient pas participé à la manœuvre non plus. Sur un geste d'Ingtar, Rand et les autres rejoignirent les guerriers du Chiennard.
« Cet endroit pue !»
lâcha Perrine. Ourine lui jeta un regard courroucé, mais l'apprenti forgeron ne se démonta pas, le forçant à baisser les yeux.
« C'est vrai, »
concéda-t-il.
« Ça sent mauvais.
Ces fichus trolloques et leurs maudits suppôts sont passés par ici, seigneur. »
dit Uno, en désignant les rares empreintes que les cavaliers n'avaient pas labourées.
Ils ont filé jusqu'à la fichue rive, pour prendre le bac de malheur et passer comme des fleurs sur l'autre rive. Par le sang et les fichus cendres, on a de la chance qu'ils n'aient pas pensé à s'aborder la barge.
« Où sont les habitants ?»
demanda Loyal. Les portes étaient ouvertes, et plusieurs fenêtres aussi. Mais personne ne s'était montré.
« Fouillez les maisons !»
ordonna Ingtar. Plusieurs hommes obéirent, mais ils revinrent bredouilles.
« Ces gens sont partis, seigneur !»
dit Uno.
simplement partis, comme si une mouche les avait piqués, leur donnant envie de ficher le camp au milieu de la journée.
Il se tut, désignant une fenêtre derrière son chef.
« Il y a une femme, là! Comment ai-je pu ne pas la voir plus tôt ?»
Le vétéran partit au pas de course avant que quiconque ait le temps de réagir.
« Ne lui fais pas peur, Uno !»
cria Ingtar.
« Il nous faut des informations! Que la lumière t'aveugle si tu l'effraies !»
Uno s'engouffra dans la maison.
« Ma bonne dame, nous ne vous ferons pas de mal. Nous sommes de fidèles soldats du seigneur Agelmar de Faldara. Surtout, n'ayez pas peur !»
Uno passa la tête par la fenêtre du premier étage, derrière laquelle il avait vu la femme. Puis il regarda de tous les côtés et disparut de nouveau. Un bruit de pas ponctué de sons plus sourds, comme s'il se défoulait en flanquant des coups de pied dans tout ce qu'il trouvait, annonça son retour.
« Volatilisé, seigneur !»
annonça-t-il en sortant de la maison.
Pourtant, elle était là, une femme en robe blanche. Je l'ai vue, et j'ai même cru l'apercevoir à l'intérieur, mais... Seigneur, la maison était vide.
Pour ne pas avoir constellé son discours de fichu et de maudit, le vétéran devait être sacrément remué.
« Des rideaux !»
marmonna Matt.
« Il a poursuivi de fichus rideaux !»
Uno foudroya le jeune homme du regard, puis alla rejoindre son cheval.
« Où sont ces gens ?»
demanda Rand.
Ont-ils fui quand les suppôts sont arrivés?
Avec des trollocs, un myrdral et la fameuse entité de Hurin. Des petits malins s'ils ont vraiment filé.
J'ai peur que les suppôts les aient capturés, Rand.
Dit Loyal, l'air accablé. Avec son grand nez presque aussi large qu'un museau, ça lui donnait comme un air de chien triste.
Pour les trollocs.
Rand regretta d'avoir posé la question. Penser aux habitudes alimentaires des monstres n'était jamais réjouissant.
« Les suppôts sont responsables de ce qui est arrivé ici. »
dit Ingtar.
« C'est évident. Hurin, sens-tu de la violence? La mort, peut-être ?»
Le renifleur sursauta, revenant à la réalité alors qu'il sondait l'autre berge du fleuve, comme s'il voulait s'abstraire de ces lieux.
« De la violence, seigneur?
Oui, mais pas de meurtre. Enfin, pas exactement. »
Hurin jeta un regard en biais à Perrine.
« Je n'ai jamais rien senti de pareil. » Mais des gens ont souffert, c'est certain.
Ont-ils vraiment traversé? Ou nous font-ils une nouvelle fois le coup du demi-tour?
Ils ont traversé, seigneur.
Hurin regarda de nouveau la berge d'en face.
Quant à dire ce qu'ils ont fait de l'autre côté.
Uno,
dit Ingtar,
je veux qu'on ramène le bac de notre côté. Et qu'on explore la berge d'en face avant que tout le monde traverse. L'absence d'embuscade ici ne veut pas dire qu'on ne nous a pas tendu un piège là-bas. C'est d'autant plus dangereux que nous devrons nous diviser en au moins deux groupes, considérant la petite taille de cette barge.
Uno salua son chef et désigna des volontaires. Ragan et Massema se défirent de leur armure. Une dague glissait dans la ceinture de leurs pantalons, au creux des reins. Ils avancèrent vers le fleuve de leur étrange démarche chaloupée de cavaliers, entrèrent dans l'eau et se servirent de la corde du bac pour progresser plus aisément. Au milieu de la traversée, la corde prenant du mou, les deux hommes s'enfoncèrent dans l'eau jusqu'à la taille. Avec la force du courant, ils auraient pu être emportés. Mais ils se révélèrent bien plus doués que Rand le pensait et réussirent à atteindre le bac en un temps record. Dès qu'ils furent sur la terre ferme, ils dégainèrent leurs dagues et s'enfoncèrent entre les arbres. Après ce qui parut une petite éternité, ils revinrent, grimpèrent sur le bac et entreprirent de le faire traverser. Cela leur prit peu de temps. Alors que Massema s'occupait d'amarrer la barge, Ragan vint faire son rapport à Ingtar. Rand remarqua aussitôt l'inhabituelle pâleur du soldat qui faisait ressortir d'autant plus sa balafre.
« Il n'y a pas de piège de l'autre côté, seigneur, mais... »
Encore mouillé et tremblant un peu, Ragan fit une profonde révérence.
« Seigneur, il vaudrait mieux que vous veniez voir par vous-même. Le grand chêne a une cinquantaine de pas au sud de l'embarcadère. Je ne trouve pas les mots. »
Ingtar hésita un peu. Puis il acquiesça.
Du beau travail, Ragan. Je vous félicite tous les deux. Uno, trouve dans une de ces maisons de quoi sécher ces braves types. Puis vois si quelqu'un a laissé de l'eau afin de faire une infusion. Déniche aussi quelque chose pour tenir chaud à Ragan et à son camarade. Puis fais traverser les animaux de bas et la seconde section.
Ingtar se tourna vers Rand.
Tu es prêt à découvrir la berge sud de l'Erinin?
Sans attendre de réponse, l'officier prit la direction de la berge avec la première section et le renifleur. Rand n'hésita pas longtemps avant de suivre le mouvement.
Loyal l'accompagna, et Perrine aussi, à sa grande surprise. Quelques guerriers mirent pied à terre pour jouer les haleurs. Histoire de détendre un peu l'atmosphère, ils échangèrent quelques plaisanteries plutôt lestes. À la dernière seconde, alors qu'un homme dénouait déjà les amarres, Matt rejoignit ses amis sur le bac.
« Il fallait bien que je traverse un moment ou un autre, non ?»
lança-t-il à la cantonade.
« Je dois la trouver !»
Rand hocha tristement la tête. À force de le voir en pleine forme, il avait oublié que Matt jouait gros dans cette expédition.
« La dague, bien sûr. »«
Ingtar peut bien s'occuper du corps. » « Moi, je me contenterai de dénicher cette arme. »«
Nous la trouverons, Matt. »
Avec un regard moqueur pour la jolie veste de son ami, Matt lui fit un sourire sans joie avant de détourner la tête. Rand en soupira d'accablement.
« Tout s'arrangera, Rand, » lui assura Loyal. « Au bout du compte, tout ira bien. »
Dès que le bac fut à l'eau, le courant l'entraîna, faisant subir à la corde une brusque tension. Alors que des grincements sinistres remplissaient l'air, les haleurs improvisés se mirent à l'ouvrage. Avec leur armure et leur casque, ces hommes n'étaient pas vraiment à leur avantage, mais ils s'en sortirent pourtant plus qu'honorablement.
« C'est comme ça que nous avons quitté le pays, à Bac-sur-Tarène, »
dit Perrine. Les bottes des haleurs résonnaient bizarrement sur le pont de bois, le bruit de l'eau dérangé par la barge leur faisant comme un contre-champ plus flûté.
« Oui, exactement comme ça. Mais ce sera pire cette fois. »
« Comment est-ce que ça pourrait l'être ?»
demanda Rand. L'apprenti forgeron ne répondit pas. Ses yeux jaunes semblaient briller, mais pas d'enthousiasme. Il entreprit de sonder la rive opposée.
« Oui, comment ça pourrait être pire ?»
demanda Matt après un moment de silence.
« C'est écrit. Je le sens. »
se contenta de répondre Perrine. Ourine le regarda avec une évidente inquiétude. Mais depuis le départ de Faldara, il lorgnait tout, comme si le ciel allait lui tomber sur la tête d'un moment à l'autre. Le bac entra en contact avec la terre ferme, glissant assez sur l'argile durcie pour se retrouver pratiquement sous les arbres. Les haleurs remontèrent en selle, à l'exception des deux hommes qu'Ingtar chargea de ramener la barge sur la rive d'en face. Tous les autres débarquèrent avec leur chef.
« Le grand chêne, à 50 pas de l'embarcadère !»
marmonna Ingtar, tandis que la première section et les 5 civils avançaient au trot entre les arbres. L'officier semblait trop détendu pour que ce soit sincère. Si Ragan n'avait pas trouvé les mots, eh bien il fallait s'attendre au pire. Nerveux, quelques soldats s'assurèrent que leur épée coulissait bien dans le fourreau qu'ils portaient en travers du dos. Au premier coup d'œil, Rand crut que les silhouettes pendues aux branches du grand chêne étaient des épouvantails. Des épouvantails écarlates. Puis il reconnut les visages. Shanggu et son inséparable camarade, Nidao. Les deux gardes du donjon. Les yeux écarquillés, la bouche ouverte sur un cri de douleur. On les avait torturés, et ils n'étaient pas morts tout de suite, loin de là. Perrine émit une sorte de grognement animal.
« La pire chose que j'ai jamais vue, Seigneur !»
dit Ourine.
« Et sentie, sauf dans le donjon de Faldara, la nuit de l'évasion. »
Rand invoqua la flamme et le vide, passant très vite sur la première, afin de s'envelopper d'un cocon de néant. Mais la flamme résista, sa lumière devenue blafarde et maladive, envahissant jusqu'au refuge ultime où l'âme de Rand tentait de s'abstraire de la réalité.
Rien d'étonnant quand la réalité ressemble à ça.
Cette pensée fit des ricochets dans le vide comme une goutte d'eau sur une plaque de cuisson chaude.
Qu'est-il arrivé à ces hommes?
Écorchés vifs,
dit un soldat dans le dos de Rand. Des borborygmes lui indiquèrent qu'un homme au moins n'avait pas pu se retenir de vomir. Rand aurait parié qu'il s'agissait de Matt, mais le monde extérieur semblait si loin quand il s'immergeait ainsi dans le vide. De plus, son propre estomac n'allait pas très bien, et il risquait à tout moment de se vider aussi.
« Qu'on les dépende !»
ordonna Ingtar. Il hésita un moment, puis ajouta.
« Et qu'on les enterre. Ces types n'étaient peut-être pas des suppôts. Qui sait, ils ont pu être faits prisonniers. Qu'ils aient droit à l'ultime étreinte de notre mère à tous semble normal. »
Des hommes avancèrent, couteau au poing. Ils traînaient un peu les pieds, et ça n'avait rien d'étonnant. Même pour des guerriers du Chiennard, s'occuper des dépouilles mutilées de camarades n'avait rien de facile.
« Ça va, Rand ?»
demanda Ingtar.
« Tu sais, je ne suis pas habitué non plus à ce genre de spectacle.
Je vais bien. »
Rand conjura le vide. Sans lui, il se sentit un peu moins mal. Toujours nauséeux, mais un peu mieux quand même. Ingtar hocha la tête, rassuré, puis fit pivoter son cheval de façon à regarder les hommes, travailler. Les funérailles furent extrêmement simples. Deux trous dans la terre, une inhumation rapide au milieu d'un cercle de guerriers silencieux. Et enfin, sans plus de cérémonie, les coups de pelle nerveux des fossoyeurs improvisés. Rand fut troublé par tant de sobriété, mais Loyal lui fournit quelques explications.
« Au Chiennard, les gens pensent que nous venons tous de la terre et qu'il nous faut y retourner. Ils n'utilisent ni linceul ni cercueil, et les cadavres ne sont jamais habillés, afin que l'ultime étreinte de notre mère à tous soit facilitée. Le silence aussi est normal. » On dit seulement deux phrases à la fin de la cérémonie. Que la lumière brille sur toi et que le Créateur te protège. Avec son ultime étreinte, la terre t'accueille en ton nouveau foyer. Mais personne ne les prononcera aujourd'hui, je le crains. Malgré ce que dit Ingtar, il y a de fortes chances pour que Shanggu et Nidao aient tué les gardes de la porte du chien et laissé entrer les suppôts dans la forteresse. On ne voit pas qui d'autre pourrait être coupable.
Mais qui a tiré sur la chair d'Amerline ? Ou plutôt sur moi. Loyal ne répondit pas. Uno et la seconde section arrivèrent au moment où les fossoyeurs finissaient de recouvrir les corps. Quand on lui décrivit la scène, le borgne cracha sur le sol et grogna.
Ces maudits trollocs laissent souvent ce genre de boucherie le long de la flétrissure. Pour taper sur nos fichus nerfs, pour souligner qu'il vaut mieux ne pas les suivre dans leur fief. Que la lumière me brûle si leur manigance marche sur nous.
Avant que la colonne reparte, Ingtar immobilisa son cheval à côté des deux monticules de terre sans signe distinctif et qui paraissaient trop petits pour contenir un être humain.
« Que la lumière brille sur vous et que le Créateur vous protège, »
murmura-t-il.
« Avec son ultime étreinte, la terre vous accueille en votre nouveau foyer. »
Relevant les yeux, l'officier regarda tour à tour chacun de ses hommes, leur expression chaque fois aussi fermée que la sienne.
« Sur la brèche de Tarwin, ils ont sauvé le seigneur Agelmar. »
dit-il comme pour se justifier. Plusieurs guerriers l'approuvèrent du chef.
« En route, maintenant. Urin, quelle direction ?»«
Le sud, seigneur. » »«
Alors montre-nous le chemin. La chasse est ouverte. »
La forêt céda très vite la place à une vaste plaine, traversée de ci de là par un cours d'eau peu profond, enchâssé entre deux berges abruptes qui lui donnaient des allures de canal. De temps en temps, une butte ou une colline venait rompre la monotonie, mais négocier ces élévations de terrain ne présentait jamais de véritables difficultés. Bref, une configuration parfaite pour les chevaux. Tirant parti de ce coup de chance, Ingtar imposa à la colonne un rythme très soutenu. Une demi-douzaine de fois, Rand aperçut dans le lointain ce qui devait être une ferme. En une occasion, il crut voir un village, à environ un quart de lieue de la colonne. De la fumée montait d'une série de cheminées, et une structure blanche indéfinissable brillait sous les rayons du soleil. Malgré ces signes de vie, les cavaliers ne croisèrent jamais personne dans la partie de la plaine d'où ils prenaient garde ne pas s'écarter. De temps en temps, ils traversaient un bosquet qui les changeait agréablement des hautes herbes, mais la zone boisée ne dépassait jamais une centaine de pas de profondeur. Ingtar avait désigné deux éclaireurs que leurs camarades distinguaient uniquement quand ils se tenaient au sommet d'une colline. Pour rappeler éventuellement ses hommes, au cas où Urin suggérait un changement de direction, l'officier disposait d'un sifflet en argent pendu autour du cou. Il n'eut pas besoin de s'en servir, puisque la traque continua, entraînant toujours les guerriers vers le sud.
« Si nous continuons à ce rythme, »
annonça Ingtar,
« nous atteindrons le champ de Talidar dans 3 ou 4 jours. Le site de la plus grande victoire d'Arthur El de Faucon, remportée contre des trollocs conduits hors de la flétrissure par une meute de Myrdral. La bataille dura 6 jours et 6 nuits. Ensuite, les trollocs survivants s'en retournèrent chez eux, et ils n'osèrent plus jamais défier le grand roi. Pour célébrer son triomphe, Arthur fit ériger un monument, une tour de plus de 100 pieds de hauteur. Surmontée d'un soleil doré, cette flèche de pierre n'était pas érigée à la gloire du roi. Au contraire, on y sculpta tous les noms des soldats tombés au champ d'honneur, afin de permettre la victoire de la lumière sur les ténèbres.
J'aimerais rudement voir ça, souffla Loyal. « Je n'avais jamais entendu parler de cet obélisque. »
Ingtar ne répondit pas tout de suite, et quand il le fit, sa voix ne tremblait pas.
« Bâtisseur, il n'existe plus depuis longtemps. Après la mort d'Arthur,
Les vautours qui se disputaient son empire n'auraient pas supporté de laisser debout un monument à la gloire d'un de ses exploits, même si l'obélisque ne faisait nullement mention de son nom. Il n'en reste plus rien, à part la butte sur laquelle il trônait. Dans 3 ou 4 jours, nous verrons au moins ça.
Sur ces mots, l'officier se plongea dans un mutisme d'où il ne semblait pas disposé à sortir avant un long moment. Alors que le soleil était à son zénith, la colonne passa devant une structure carrée au mur de briques. La voyant d'assez loin, Rand vit néanmoins qu'elle n'était pas haute, 2 niveaux tout au plus, mais incroyablement étendue. En complète déliquescence, il ne lui restait plus qu'un fantôme de toit où s'accrochaient encore quelques tuiles rebelles aux outrages du temps. Leur revêtement en plâtre désormais grisâtre, nul doute qu'il avait été jadis d'un blanc éclatant, les murs aussi s'écroulaient par lambeaux, laissant apparaître plusieurs cours intérieures et des salles dans un état de délabrement avancé. Des buissons et même des arbres avaient fini par éventrer les dalles des cours, envahissant toutes leurs jointures.
« Un manoir !»
annonça Ingtar. Le peu de morale qu'il semblait avoir recouvré venait de disparaître en fumée devant les ruines.
Lorsque Arad-Dakkar existait encore, les habitants cultivaient ces terres sur un rayon d'une bonne demi-lieue. Des vergers, je crois. Les Aradani aimaient beaucoup leurs vergers.
Arad-Dakkar ? Demanda Rand.
On ne vous apprend plus l'histoire désormais. Arad-Dakkar était la capitale du Ardan, le royaume qui s'étendait jadis sur les terres que nous traversons.
J'ai consulté une très vieille carte, rétorqua Rand, et je connais bien des nations disparues, le Marado, le Guaban et le Karalein. Mais je n'ai jamais vu de Ardan.
Il y a d'autres pays désormais rayés de la carte du monde,
intervint Loyal.
Le Maradon, par exemple, qui est devenu l'Adonmirk et l'Almoth. Le Kintara aussi. La guerre des 100 années a fait exploser l'Empire d'Arthur en une multitude de royaumes petits ou grands. Les plus petits furent absorbés par les plus grands, ou au moins unifiés, comme l'Altara et le Murandi. Parler d'unification forcée serait plus juste, je suppose.
Qu'est-il advenu de ces pays ?
Demanda Matt. Rand n'avait pas remarqué que ses amis chevauchaient en tête de la colonne. Jusque-là, ils avaient traîné à l'arrière, le plus loin possible de lui.
Le liant n'a pas pris, répondit Loyal. L'agriculture s'est délitée, ou le commerce, ou un simple échec humain. En tout cas, chaque fois, quelque chose s'est écroulé et la nation est tombée avec. Il y a eu aussi toute une série de conquêtes militaires, mais toujours éphémères. Le Ardan est devenu un désert. Il reste bien quelques villages de ci, de là, mais ce ne sont plus que des ruines peuplées de fantômes. Enfin, presque toutes. Arad-Dakkar fut abandonné il y a 300 ans, mais, même avant, ce n'était qu'une coquille sans substance, dirigée par un roi qui n'avait aucune influence sur ce qui se passait dans les rues. Il ne reste rien de cette capitale, d'après ce qu'on m'a dit, ni des autres cités du pays, parce que les paysans et les villageois les ont démontés pierre à pierre. Les bourgs qu'ils ont érigés avec n'existant plus non plus, le cercle semble bouclé. C'est ce que j'ai lu, et je n'ai rien vu qui contredise ces informations.
Pendant près de 100 ans,
dit Ingtar.
Arad-Dakkar a été une ville ouverte livrée à tous les crimes. Puis ses habitants ont fui, et elle fut littéralement démantelée. Un royaume entier en voie de disparition. Aujourd'hui, quelle nation contrôle vraiment le territoire qu'elle revendique sur une carte? Et laquelle a les mêmes prétentions en matière de frontières qu'il y a seulement un siècle? Après la guerre des 100 années, de la flétrissure à la mer des tempêtes, on traversait une multitude de pays. De nos jours, il ne reste plus qu'une succession de terres ravagées dont personne ne se soucie. Chez nous, près de la frontière avec la flétrissure, le combat contre les envahisseurs est un garant d'unité et de force. Ici, il manquait peut-être une motivation. Tu as parlé d'échecs, pâtisseur, et c'est bien de ça qu'il s'agit. Mais combien de royaumes encore debout aujourd'hui seront sur le flanc demain? L'humanité est balayée par un raz de marée, mes amis. Combien de temps avant qu'il ne reste plus rien, à part les terres frontalières? Puis qu'elles disparaissent aussi, laissant le champ libre aux Myrdraal et à leurs Trollocs.
Un lourd silence ponctua cette tirade, et Matt lui-même n'osa pas le briser. Perdu dans ses sombres pensées, Ingtar continua à chevaucher comme un automate. Puis les deux éclaireurs revinrent au grand galop, debout sur leurs étriers et la lance pointée vers le ciel.
« Un village devant nous, seigneur !»« On ne nous a pas vus, mais la colonne se dirige droit sur cette agglomération !»
Ingtar émergea de sa morosité. Mais il ne desserra pas les dents jusqu'à ce que la colonne ait atteint le sommet d'une crête d'où on avait une vue parfaite sur le village. Là, il se contenta d'ordonner une halte. Puis il sortit une longue vue de ses sacoches de sel et entreprit d'étudier le bourg. Rand fit de même avec un sincère intérêt. Le village était aussi grand que Champ-des-Mondes, autrement dit plutôt petit, comparé aux villes et aux cités que le jeune homme avait visitées depuis son départ de Deux-Rivières. Les maisons basses étaient toutes revêtues d'argile blanche et de l'herbe poussait sur leurs toits très inclinés. Des moulins à vent disposés dans tout le village tournaient paresseusement, leurs pales revêtues de tissu blanc brillant au soleil. Un mur d'enceinte assez bas, environ à hauteur de poitrine d'homme, entourait le bourg et un fossé extérieur, son fond hérissé de pieux, constituait un obstacle supplémentaire. La seule ouverture ménagée dans le mur n'était pas munie d'une porte, constata Rand. Mais il devait être assez facile de la bloquer avec une charrette ou un chariot. À part ça, il n'y avait personne en vue.
« Pas même un cabot !»
marmonna Ingtar en rangeant la longue vue dans ses sacoches.
« Tu es sûr qu'on ne vous a pas repéré ?»«
Certain, sauf si ces gens ont le don de double vue du ténébreux. Nous ne nous sommes pas montrés en haut de la crête, et nous n'avons vu personne bouger dans le village. »
« Notre piste, Urin ?»
demanda Ingtar.
« Elle passe par le village, seigneur. En droite ligne, pour autant que je puisse le dire d'ici. »«
Ouvrez l'œil !»
ordonna Ingtar à ses soldats. Il prit à deux mains les rênes de sa monture.
« Et n'allez surtout pas croire que les gens sont amicaux parce qu'ils sourient. S'il y a des gens, bien sûr. »
Il se mit en route, lâchant bientôt les rênes d'une main pour défaire l'attache de son épée et s'assurer que celle-ci coulissait bien dans son fourreau. Derrière lui, Rand entendit que tous les hommes faisaient de même. Après une brève hésitation, il les imita. Vouloir rester en vie n'était pas la même chose qu'aspirer à être un héros, venait-il de décider.
« Ces villageois seraient susceptibles d'aider des suppôts ?»
demanda Perrine à Ingtar. L'officier prit le temps de peser ses mots avant de répondre.
« Ils n'aiment pas beaucoup le chiennard, »
dit-il enfin.
« Selon eux, nous devrions les protéger, le chiennard ou le Kairien. » Après la mort du dernier roi du Hardan, le Kairien a revendiqué ce pays. Jusqu'à l'Erinin, ses gens entendaient annexer le territoire. Mais ils se sont révélés incapables de le tenir. Du coup, ils ont renoncé à leurs prétentions il y a une centaine d'années. Les rares téméraires qui vivent encore dans ce secteur n'ont rien à craindre des Trollocs. En revanche, les brigands humains sont un gros problème. Le mur et le fossé sont là à cause de ça. Tous les villages ont opté pour ces défenses. Les champs cultivés sont relativement dissimulés dans des cuvettes naturelles, autour du bourg. Mais personne ne s'établit à l'extérieur du mur d'enceinte. Ces gens prêteraient allégeance à n'importe quel roi, pourvu qu'il leur accorde sa protection. Mais le chiennard est bien trop occupé par son combat contre les Trollocs. Cette position ne nous rend pas très populaires auprès de ces villageois, bien entendu.
Toutes les rues, comme souvent, conduisaient à la place centrale. Mais il n'y avait personne dehors, et pas de silhouette derrière les fenêtres. Aucun chien, pas de poule, nulle trace de vie. Des portes ouvertes grinçaient au gré du vent, faisant un accompagnement au chant des moulins. Sur la terre battue compactée, les sabots des chevaux résonnaient sinistrement.
« C'est un peu comme aux abords du bac, »
dit Urin.
« Mais avec des différences. »
Il s'était voûté sur sa selle, la tête basse, comme s'il tentait de se cacher derrière ses propres épaules.
« De la violence, mais... « Je ne sais pas. C'était moche ici. Et ça sent mauvais. »«
Uno, »
dit Ingtar,
« prends une section et fouillez les maisons. Si vous trouvez des habitants, amenez-les-moi sur la place. Et cette fois, ne leur fichez pas la frousse. Je veux des réponses, pas des malheureux qui s'enfuient à toutes jambes. »
Tandis qu'Uno obéissait, Ingtar conduisait la seconde section sur la place. Hésitant, Rand regarda autour de lui. Les grincements des portes, les moulins, les sabots des chevaux. Tout ça faisait bien trop de bruit, interdisant d'entendre le reste. Il étudia les maisons et repéra des rideaux qui battaient derrière une fenêtre ouverte. À part ça, pas le moindre signe de vie. Avec un soupir, Rand mit pied à terre, approcha d'une maison et se campa devant la porte.
« Pourquoi as-tu peur ? C'est une porte, rien de plus. »
Oui, mais il aurait juré que quelque chose l'attendait de l'autre côté. Il poussa la porte,
découvrant une pièce bien ordonnée. Enfin, qui avait dû l'être en tout cas. La table était mise, des chaises s'alignaient autour et certaines assiettes étaient remplies. Quelques mouches bourdonnaient au-dessus d'un plat de navets et de pois, et d'autres, plus nombreuses, prenaient d'assaut un rôti enchâssé dans sa propre graisse coagulée. Une tranche était à moitié coupée, la fourchette toujours plantée dans la viande, et le couteau gisant à côté, comme si on l'avait laissé tomber. Rand entra à pas prudents, et une vision explosa dans sa tête.
Un homme, vêtu comme un fermier, pose en souriant une tranche de viande sur l'assiette que lui tend sa femme au visage tanné par le soleil. Après avoir ajouté des légumes, elle donne l'assiette à un des gosses assis à la table. Ils sont 6, de toutes les tailles et de tous les âges. Le plus vieux, presque adulte, et le plus jeune, à peine assez grand pour regarder par-dessus la table. La femme dit quelque chose, et la fillette qui s'est emparée de l'assiette éclate de rire. L'homme entreprend de couper une nouvelle tranche de viande. Mais une autre fillette crie soudain en désignant la porte du doigt. L'homme lâche le couteau, se retourne, et crie également. Puis il prend un enfant dans ses bras. Sa femme l'imitant, elle pousse ensuite les 4 autres gamins vers la porte de derrière, en leur criant des ordres muets, car la terreur la prive de sa voix. Tout ce petit monde fuit vers ce qui semble être le salut, mais cette porte-là s'ouvre aussi. Rand revint à la réalité et eut le sentiment que les mouches bourdonnaient plus fort. Quand il expira, l'air se transforma en buée devant sa bouche, et une vision explosa dans sa tête. Un homme chauve, vêtu comme un fermier, pose en souriant une tranche de viande sur l'assiette que lui tend sa femme, au visage tanné par le soleil. Après avoir ajouté des légumes, elle donne l'assiette à un des gosses assis à la table. Ils sont 6, de toutes les tailles et de tous les âges. Le plus vieux, presque adulte, et le plus jeune, à peine assez grand pour regarder par-dessus la table. La femme dit quelque chose, et la fillette qui s'est emparée de l'assiette éclate de rire. L'homme entreprend de couper une nouvelle tranche de viande. Mais une autre fillette crie soudain en désignant la porte du doigt. L'homme lâche le couteau, se retourne et crie également. Puis il prend un enfant dans ses bras. Sa femme l'imitant, elle pousse ensuite les 4 autres gamins vers la porte de derrière en leur criant des ordres muets, car la terreur la prive de sa voix. Tout ce petit monde fuit vers ce qui semble être le salut. Mais cette porte-là s'ouvre aussi. Rand voulut bouger, mais ses muscles semblaient pétrifiés. Alors qu'il faisait de plus en plus froid dans la pièce, il aurait aimé frissonner, mais il n'était même pas capable de ça. Tandis que les mouches grouillaient sur la table, il invoqua le vide. La lumière maladive y brillait, mais il s'en ficha car une vision explosa dans sa tête. Un homme chauve, vêtu comme un fermier, pose en souriant une tranche de viande sur l'assiette que lui tend sa femme, au visage tanné par le soleil. Après avoir ajouté des légumes, elle donne l'assiette à un des gosses assis à la table. Ils sont 6, de toutes les tailles et de tous les âges. Le plus vieux, presque adulte, et le plus jeune, à peine assez grand pour regarder par-dessus la table. La femme dit quelque chose, et la fillette qui s'est emparée de l'assiette éclate de rire. L'homme entreprend de couper une nouvelle tranche de viande. Mais une autre fillette crie soudain en désignant la porte du doigt. L'homme lâche le couteau, se retourne, et crie également. Puis il prend un enfant dans ses bras. Sa femme l'imitant, elle pousse ensuite les 4 autres gamins vers la porte de derrière, en leur criant des ordres muets, car la terreur la prive de sa voix. Tout ce petit monde fuit vers ce qui semble être le salut. Mais cette porte-là s'ouvre aussi. On gelait dans cette pièce. La table était maintenant noire de mouches, comme les murs, le sol et le plafond. Des mouches grouillaient sur Rand, rampant sur ses yeux et s'introduisant dans ses narines et sa bouche. « Lumière, au secours, je meurs de froid !»
Le bourdonnement des mouches, à présent, résonnait comme le tonnerre.
« Froid, si froid !»
La glace s'insinua dans le vide, emprisonnant Rand dans un carcan de gel. Désespéré, il s'accrocha à la lumière maladive comme à un morceau de bois flotté. Son estomac se retourna, mais au moins, cette lumière était chaude. Il se réchauffait. Oui, le sang n'était plus glacé dans ses veines. Soudain, il eut l'impression de déchirer quelque chose. Quoi, il n'aurait pu le dire. Peut-être une toile d'araignée en fil d'acier. Ou des rayons de lune sculptés dans de la pierre. Alors qu'il ne touchait rien en réalité, ça il l'aurait juré, les fils s'effritèrent. Puis ils semblèrent se dessécher et fondre sous l'effet de la chaleur que diffusait le corps de Rand. La chaleur d'une forge, d'un incendie, de la fin du monde, de... Tout s'arrêta. Le souffle court, Rand regarda autour de lui. Des mouches mortes gisaient sur le rôti et dans le plat. 6 mouches mortes. 6 seulement. Il y en avait d'autres dans les assiettes. Une demi-douzaine de petits cadavres noirs au milieu des navets et des pois. Des mouches mortes. Hébété, Rand sortit à reculons de la maison. Matt émergea d'une autre demeure, non loin de là, et secoua la tête.
« Personne !»
annonça-t-il à Perrine, qui n'avait toujours pas mis pied à terre.
« On dirait qu'ils sont partis au milieu d'un repas, sans rien emporter. »
Un cri retentit sur la place.
« Ils ont trouvé quelque chose !»
dit Perrine. Il talonna sa monture et partit au galop. Matt sauta en selle et l'imita. Rand enfourcha Rouquin avec quelques difficultés. Très nerveux, le cheval piaffa. Le faisant avancer au pas, son cavalier tenta d'étudier les maisons sur le chemin, mais il dut très vite en détourner le regard. Matt en a exploré une, et il ne lui est rien arrivé. Quoi qu'il advienne, Rand décida de ne plus mettre un pied à l'intérieur d'une de ses demeures. Un peu rassuré, il talonna Rouquin et ne tarda pas à atteindre la place. Tous ses compagnons, pétrifiés comme des statues, se tenaient devant un bâtiment muni d'une grande porte à deux battants. Une auberge ? Non. Probablement pas, vu l'absence d'enseigne. Une salle des fêtes? Peut-être. Le jeune homme se joignit au cercle silencieux et regarda à son tour. Un homme était cloué sur les deux portes, les membres en croix. De gros pieux lui traversaient les poignets et les épaules, et deux autres avaient été enfoncés dans ses yeux afin de lui tenir la tête droite. Des éraflures sur le bois, au niveau de ses talons, indiquaient que le supplicié était vivant quand on lui avait infligé ses horreurs. Au début, en tout cas. Rand eut soudain le souffle court. En y regardant un peu mieux, il ne s'agissait pas d'un homme. Aucun être humain, jamais, n'avait porté des vêtements si noirs qu'ils en faisaient pâlir la nuit. Étrangement, le vent faisait bouger un pan de la cape du mort. En principe, ces vêtements-là n'étaient pas sensibles aux bourrasques, mais il devait y avoir une explication. Mais à l'évidence, il n'y avait jamais eu Dieu sur ce visage désormais exsangue.
« Un Myrdal !»
souffla Rand. Cela brisa le sortilège qui empêchait ses compagnons de bouger et de parler.
« Qui ?»
Matt dut s'y reprendre à deux fois pour formuler sa question.
« Qui a pu faire ça, un blafard ?»«
Je n'en sais rien. »
avoua Intar.
« Rien du tout. »
Il regarda autour de lui, sondant les visages, ou s'assurant que personne ne manquait.
« Ici, nous n'apprendrons rien de plus. Allez, tous en selle. Ourin, la piste. Guide-nous hors de ce lieu. »
« Oui, seigneur, avec plaisir. Le sud, il se dirige toujours vers le sud. »
Les cavaliers s'éloignèrent, laissant le Myrdral là où il était, sa cape livrée aux caprices du vent. Sans attendre Ingtar, contrairement à ses habitudes, Ourin fut le premier à franchir le mur d'enceinte. Mais Rand lui collait au basque.